Interview.
À tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Vous venez d'entendre une prestation de Bruno Bourgeois au Métadrome, un instrument qu'il a lui-même fabriqué à partir de bouteilles de gaz. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors c'était tout à fait remarquable, je suppose que c'était une improvisation, tu me corriges pas, c'était pas quand même une œuvre de Bach.
Merci, non c'était une improvisation, oui. Oui d'ailleurs le fait d'improviser pour la radio c'est pas forcément facile, Ça stresse un peu plus que sans les micros.
Tu es venu parce que donc c'est une activité que tu fais déjà depuis un bout de temps, mais tu t'apprêtes à te professionnaliser pour les commercialiser.
Oui, c'est ça. Je suis en train de rajouter une activité dans mon activité principale là pour pouvoir les vendre et les commercialiser.
Alors parle-nous un peu de ce qu'est un métadrome.
Bah, le métadrome, c'est un instrument voilà, mélodique, harmonique, avec lequel on peut jouer très facilement parce que c'est percussif. Et du coup, c'est un instrument qui permet d'accéder à la musique et à une beauté de jeu assez facilement, notamment grâce aux baguettes surtout. Mais après, même avec les mains, on arrive assez vite à faire des choses plus complexes du coup et très belles, en tout cas à mes oreilles, quoi.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait mélodieux et sympathique.
Oui.
Bon, on va tourner autour de ces métadrones. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais peut-être que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors, comment tu fais pour les fabriquer?
Moi, j'allais dire c'est simple, mais c'est pas très complexe, on va dire, mais c'est un peu difficile parce que ça demande de travailler le métal et c'est une matière qui est quand même assez difficile à travailler. On se brûle, on se brûle surtout d'ailleurs. Puis c'est bruyant, c'est fatigant. Mais en fait, je récupère une bouteille de gaz. Je la vide complètement. En enlevant le bouchon et en le mettant à l'envers. Pour ceux qui voudraient s'y improviser, faut bien la laisser se vider pendant une semaine, au moins on est sûr. Et après, je l'enlève le bouchon est déjà parti. Je découpe autour du bouchon pour faire mon bas, le bas de l'instrument. Du coup, ça fait deux sous-coupes. Je me récupère deux sous-coupes, le bas et le haut de la bouteille. Et je vous passe un peu les détails, mais je ponce, je polis, machin. Je les ressoude. Du coup, ça me fait au final un espèce d'ovni, une sous-coupe, quoi. Sous-coupe non volante.
Avec un trou en bas qui correspond à l'entrée
c'est
du
ça.
Robinois.
Le trou en bas, en fait, il correspond exactement à là où il y a le bouchon sur la bouteille. C'est du coup, le bas de l'instrument, c'est le haut de la bouteille de gaz. Du coup, c'est des bouteilles but à gaz classiques, là-bas, toutes les marques qu'on peut trouver. Et bah du coup, c'est des instruments qui sont à chaque fois vraiment uniques, parce que bah déjà, j'ai l'impression même la façon dont je travaille dessus, l'énergie du moment, on va dire, va faire des particularités. Et aussi, notamment, surtout, j'ai envie de dire, parce que chaque bouteille de chaque époque différente ont des qualités de métaux différents. Le fer est jamais pur de la même façon. Bah par exemple, le premier instrument que j'ai fait, j'en ai fait un, moi c'était une commande qu'on m'a pas acheté, puis du coup on m'a recommandé le même mais un autre, du coup j'ai refait exactement le même avec une autre bouteille et j'ai pas eu du tout la même qualité sonore. Pourtant c'était les mêmes notes, mais le premier avait un son un peu mat et le deuxième avait un son beaucoup plus brillant, plus cristallin on va dire, qui sonnait plus longtemps. D'ailleurs c'est très difficile de savoir lequel on préfère des deux, ça dépend vraiment des gens quoi. Donc voilà, ouais, c'est des instruments très particuliers. C'est une recherche qui est vraiment intéressante parce que ça m'a permis de découvrir bon, qui a toujours été très très attiré par la musique, mais intimidé par on va dire tout ce qu'il y a autour de la musique et ce qui est dogmatique et en général fatigant d'avance ou inquiétant. Là, ça m'a permis par passion d'aller chercher et comprendre un peu ce que sont les gammes, les harmonies différentes, tout le vocabulaire un peu
les arpèges.
Scientifique, ouais, les machins comme ça, là, c'est...
Les fa dièses.
Le truc, t'as intérêt à être motivé avant de t'y coller, parce que sinon, c'est rébarbatif. Et moi, j'avais déjà une connaissance de la musique, et surtout l'oreille, parce que je fais de la musique depuis longtemps, même si certains profs de musique m'ont carrément dégoûté de l'instrument. Et du coup, je fais surtout des instruments qui sont... qui sont pas classiques. En tout cas, je fais du chant, de la percu, des guimbardes, du chant diphonique. J'aime beaucoup faire de la musique, en tout cas. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, dans l'expression, permet de transformer des choses à l'intérieur, d'extirper, de sortir des émotions qui peuvent parfois sont bloquées, ou d'exprimer la joie. Et c'est vraiment la vibration de la vie. C'est avec la danse, le chant, je trouve que c'est deux choses qui permettent de se faire vraiment du bien.
Nos auditeurs ont pu constater que tu arrivais avec cet instrument à produire un certain nombre de notes. Alors comment tu y arrives ?
Comment je fais pour en avoir autant de notes ou comment je fabrique les notes, si tu veux dire ?
En fait, on peut dire déjà les deux, mon capitaine, d'accord, que si on arrive à faire autant de notes, c'est parce qu'il y en a plusieurs sur cette soucoupe volante.
Oui, voilà. Ouais. Alors du coup, il faut savoir quand même que je ne suis pas le seul à en produire, mais en général, sur les instruments de cette taille-là, en tout cas, on a classiquement 8 notes, parfois 9 avec une au milieu qui est rajoutée. Et du coup, moi, j'ai un modèle qui a 8 notes, comme tout le monde. Parfois, j'en ai fait aussi à 9 pour essayer. J'ai un peu arrêté parce que ça fragilise un peu la structure, bon, mais je peux le faire quand même. Et après, j'ai réussi à faire un modèle avec carrément 12 notes sur la même taille d'instrument et avec le même poids, du coup. Et c'est assez intéressant d'avoir autant de notes pour s'exprimer. Surtout sur des gammes comme ça qui sont... je vais dire sûrement une bêtise, mais des gammes qui pour moi sont complexes un peu, c'est-à-dire complètes avec beaucoup de notes, comme au moins 7 notes par octave, comme une gamme de do par exemple. Alors que dans ces instruments-là, en général, c'est quand même plutôt des gammes qui sont pentatoniques ou avec 6 notes. Du coup, le fait d'avoir 7 notes et 7 notes du coup à l'octave, hein, je m'entends, c'est la gamme, par exemple, la gamme de do, on va dire do ré mi fa sol la si do, c'est 7 notes jusqu'au do qui fait la 8e là. Sur un 12 notes avec 7 notes d'expression, ça permet vraiment de sortir des mélodies très intéressantes.
Par exemple, tu pourrais faire d'un côté la basse et puis de l'autre côté la rythmique et enfin le solo avec une troisième paire de mains.
Tu pourrais faire un peu ça, ouais. C'est ce qui se passe en général. Quand je joue avec les mains, je joue presque qu'avec les mains. J'utilise mes deux pouces et les index et parfois les majeurs aussi sur certains accords. Peut-être que je peux montrer un petit peu là. Souvent, je fais un genre de rythmique avec la main droite un peu. D'ailleurs, je suis en train d'essayer d'apprendre à la main gauche de faire pareil pour développer encore des choses. Alors, par exemple. Notamment le fait d'avoir autant de notes, elles sont placées de telle façon qu'on a des accords harmoniques très intéressants à faire, comme Par exemple, sur celui-là, là, c'est un 12 notes qui est particulièrement joli parce qu'il est à moitié poli et du coup, ça lui fait des taches. Il est vraiment joli. Du coup, sur la partie droite, je vais avoir ces notes-là que je vais vous montrer tout de suite en accord. Et si c'est pas sur la partie gauche, ça va donner le même accord sur un demi-ton en dessous à peu près. Voilà, bon, etc. Le fait d'avoir ces 12 notes, ça permet vraiment d'avoir beaucoup de possibilités.
Est-ce que tu pourrais nous faire tout simplement la gamme ?
Oui, bien sûr. Du coup, là, c'est la gamme de cet instrument-là. Là, je vais vous la jouer comme elle est, comme celle que j'ai choisie. Quoi. C'est une gamme, du coup, en mineur harmonique en ré. Et du coup, dessus, là, vu qu'il y a 8-12 notes, j'ai rajouté à l'octave en dessous une traversée rapide de l'octave sur 4 notes. Du coup, ça fait ça en entier.
Faut pas se tromper sur les notes. Et j'ai vu d'ailleurs que tu tournais l'instrument. Tu peux tourner pour avoir, si tu préfères, mettre la droite.
C'est ça. En fait, selon comment t'es placé pour jouer, c'est-à-dire là, comme je suis là assis avec l'instrument contre mon ventre, parfois c'est pas hyper pratique pour jouer les trois notes qu'il y a devant moi. Du coup, je les mets en face parfois pour du coup là la note grave elle est quand même accessible facile. Bah faudrait voir pour que vous compreniez, faudrait voir mais. Et puis au niveau de l'improvisation, parfois simplement pour me surprendre, je m'amuse à tourner l'instrument comme ça je perds un peu mes repères et ça m'évite de tomber trop facilement dans des pièges d'impro parce que l'impro c'est comme dans tous les domaines, l'impro, parfois, on retombe dans des espèces d'autoroutes qu'on s'est créées. Du coup, voilà, pour sortir un peu de ça, parfois, je m'amuse à simplement tourner l'instrument.
Ah oui, ça change tout. On mettra une photo du dessus d'un métadrop sur la page de l'émission, mais effectivement, il y a un certain nombre, je ne sais pas comment les appeler,
des lames, on peut dire.
Des lames. Ouais. Explique un peu comment tu procèdes pour les fabriquer, ces lames.
Oui, c'est vrai que j'avais commencé ça tout à l'heure. Donc, après avoir soudé ma soucoupe volante, je dessine mes notes. Et après, je fais une amorce à la disqueuse, donc pour faire un trou sur l'instrument, sur chaque note. Et je découpe à la scie sauteuse pour suivre, parce que là, sur mon instrument, les notes sont arrondies. Parce qu'il faut savoir que, donc, du coup, je disais aussi tout à l'heure qu'on est plusieurs à en fabriquer, on est même commencé à être nombreux. Et il y en a qui font des notes carrées, rectangulaires, d'autres carrées pointues. Et bon, la plupart quand même arrondies. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ces instruments-là sont intéressants parce que selon la forme des notes, selon la qualité du métal, selon je ne sais pas encore exactement quels critères, on a vraiment des types de sons différents. D'ailleurs, j'en ai emmené plusieurs déjà pour vous montrer les différences que j'ai eues dans mes pérégrinations, on va dire, dans mes expériences. Et du coup, pour fabriquer ces lames, simplement, je fais une amorce, je fais un trou à la disqueuse et après je coupe à la scie sauteuse.
Ça fait une espèce de langue.
Ça fait une espèce de langue, ouais, une languette, c'est ça. C'est un peu le principe du xylophone ou du métallophone, on va dire, sauf que la languette est rattachée à l'ensemble de la soucoupe. Du coup, c'est pour ça aussi qu'à ce côté, si je tape au milieu de l'instrument, ça va faire sonner un peu toutes les notes. Qui peut être intéressant pour faire souvent, j'utilise ça pour faire une espèce de rythmique générale, quoi.
Superbe en tout cas, j'aime beaucoup le son.
C'est beau. J'aime bien. Mais
c'est planant quoi.
En fait, il faut savoir, du coup, c'est pas moi qui ai inventé cet instrument du tout. Hein. Exactement les origines de cet instrument, j'aurai du mal à les dire, de l'instrument duquel je vais parler. C'est le hang en fait que moi j'ai rencontré dans les années 98-2000. C'est un instrument qui suit plutôt le principe du steel drum, on va dire. C'est des notes qui sont non découpées mais martelées sur un métal plus fin. Et qui fait une forme de soucoupe volante aussi, mais plus gros que mes instruments. Du coup, C'est un instrument qui est assez encombrant, on va dire. Et cet homme-là, là, dont je n'ai pas en mémoire le nom, qui est suisse, il a fait un peu des recherches sur les différents métaux qui constituent tout ce qui est gong chinois, les cloches chinois tibétaines, les bols tibétains. Et il s'est inventé un mélange qu'il a d'ailleurs, qui est tenu secret. Hein, c'est un... Bon, après, peut-être à vérifier, maintenant, il a peut-être lâché le truc, mais qu'il a breveté, quoi. Et après, il a inventé ses instruments. Alors, j'ai eu des on-dit que peut-être un instrument un peu de ce style-là existait déjà, je sais plus où, au Népal, je crois, ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas, pour moi, c'est là que j'ai vu la première fois ça. Du coup, ces notes martelées comme le steel drum, en forme de soucoupe volante, avec un son vraiment magnifique. Moi, quand j'ai croisé ça, là, j'étais fasciné. Et trois, quatre fois, j'ai croisé cet instrument, 4-5 fois. Dans ma vie, à chaque fois, j'ai demandé aux gens de me le prêter pour l'essayer. Et j'ai trippé grave dessus. Et puis, le problème, c'est que c'est devenu assez vite, parce que tout le monde aime beaucoup ces instruments-là, devenu très vite dur à avoir, cher. Puis la personne qui a fabriqué ça, il voulait pas vraiment faire un truc commercial. Exactement, il faut lui demander. Mais du coup, très vite, c'est devenu sur liste d'attente, le prix a augmenté. Et puis après, c'est devenu sur lettre de motivation, carrément, pour choisir les clients. Et du coup, un jour, il y a quelqu'un qui attendait un instrument comme ça, qui espérait en avoir un en tout cas, et qui arrivait pas. Il était un peu désespéré. Et il a, en passant à côté de sa bouteille de gaz, il s'est dit mais pourquoi pas fabriquer quelque chose d'approchant, un peu en soudant de soucoupe. Non, d'ailleurs, dans lui, il a fait carrément sur sa bouteille de gaz entière. Il a gardé sa bouteille entière. Il a découpé les lames et il s'est fait un xylophone comme ça, un métallophone de ce type-là. Du coup, ça fait très vite des émules parce que dans tous les domaines, un peu de la débrouille, les gens se sont mis à fabriquer un peu ça. Et puis, il y en a qui aimaient bien fabriquer ça, qui sont mis à les vendre doucement. Du coup, ça fait une bonne douzaine d'années, 15 années peut-être, que ça a commencé à fabriquer.
Alors, pour en venir à la sonorité de ton instrument, je me pose une petite question. Par exemple, en parlant du gars qui a même carrément gardé la bouteille de gaz,
oui.
Ça doit faire un son plus puissant, plus sourd, non? Ou...
Ça fait...
T'as essayé, toi, d'en faire une comme ça?
J'ai pas fait avec une bouteille entière, j'ai fait avec les Twinnies, là, les petites bouteilles de 5-7 kilos, là, ou je sais plus exactement. Une bouteille comme ça entière. Mais bon, du coup, c'est, pour l'instant, j'ai difficilement de comparaison, parce que c'est le premier instrument que j'ai fabriqué là-dessus, et j'ai fait des notes complètement expérimentales. Ce que je peux dire, c'est que ça avait pas spécialement plus d'amplitude, mais après, c'était des notes très graves. Du coup, c'est dur de comparer, parce qu'entre les notes basses et les notes aiguës, il y a une grosse différence de propagation dans l'air du son. C'est-à-dire, une note aiguë va être beaucoup plus puissante qu'une note grave. Du coup, il faudrait que je fasse d'autres tests, mais ça avait un côté un peu profond, on va dire, ouais, peut-être. Mais là, sur les modèles que j'ai faits, j'aime bien ce modèle qui est assez fin, parce que on a quand même une bonne puissance et c'est vachement plus pratique à trimballer, à porter. Et puis ça fait un objet qui est vraiment joli. J'aime bien cette forme-là, quoi. Après, s'il y a des gens qui veulent vraiment un plus large ou quoi, je suis capable d'en faire aussi. Hein, ça change pas grand-chose pour moi.
Sauf que tu pars d'une bouteille de gaz, donc le diamètre de la bouteille de gaz, quand même.
Le diamètre de la bouteille, par contre, il est fixe. C'est là, je parle de l'épaisseur, du coup, de la hauteur, on va dire, de l'instrument. Tu vois, si je prends une bouteille entière ou si je le découpe, quoi.
Plus tu gardes de matière de la bouteille, plus il devrait y avoir du coffre aussi, non ?
Il y a un peu ce phénomène-là, mais...
Caisse de résonance.
Mais j'ai l'impression que c'est pour ça que je fais ces instruments comme ça. Ça fait pas tant, en fait, que ce qu'on pourrait imaginer. Parce que le son, il ressort vraiment par au-dessus. Tu vois, c'est la note qui vibre et c'est pas tant la caisse de résonance qui fait... Après, moi, ça fait 2 ans que j'en fabrique et j'ai encore beaucoup de choses à découvrir sur ces instruments-là. D'ailleurs, c'est... C'est ce qui fait qu'au niveau de la production, je suis pas encore lancé dans une grande production, c'est parce que j'ai fait que des instruments différents. Même si ma taille elle est fixe depuis quelques instruments, je suis toujours en train de changer les gammes, en train de...
Il y a un autre truc aussi dont on n'a pas tout à fait fini de faire le tour, c'est au niveau des notes et des lames. Comment fais-tu pour que telle lame soit un do ou un ré ou un do dièse, un do ré mi fa sol?
Tout simplement... En fait, du coup, par rapport à cette histoire de propagation du son, là, où les notes aiguës vont être beaucoup plus puissantes que les notes graves, du coup, mes notes graves, je les fais sur un format plus large, plus puissant, du coup, ça envoie plus de son. Du coup, c'est juste pour ça, hein, la différence, et puis en plus, ça me permet d'en mettre plus, que les notes graves sont plus grosses et les notes aiguës sont plus fines. Après, simplement, c'est la longueur qui va définir la note exacte, quoi. pour donner une info, hein, pour les fabricants, ceux qui veulent s'immiscer dans la fabrication, bah, qui veulent commencer, je fais mes notes les plus courtes possibles. Du coup, ça, c'est avec l'amorce de la disqueuse que ça me définit ça. Mais on peut faire ça au Dremel pour être encore plus petit. Et après, je fais mon tour de notes à la scie sauteuse. Là. Alors, pour attaquer le métal, il faut une bonne scie sauteuse. Hein. Du coup, pour ceux qui n'ont pas trop de matos, je conseille de faire ça à la disqueuse et de faire des notes plutôt carrées. Du coup, je fais une note le plus court possible. Et après, je réfléchis à ce que je veux faire comme gamme. En général, ça prend une journée ou deux à guitare, piano, machin. Je m'entraîne jusqu'à ce que j'ai vraiment trouvé ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Et après, j'agrandis doucement, mais en allant de plus en plus grand, ça va descendre mes notes dans les graves. Du coup, j'agrandis en faisant de plus en plus attention quand je m'approche de la note que je veux. Et comme ça, je fais ma gamme, je fais la gamme que je veux, quoi.
Alors, si j'ai bien compris, tu mets une ou deux journées rien qu'à réfléchir à ta gamme, et après, pour essayer de la retrouver avec la bonne longueur d'entaille dans le métal, tu dois passer un certain temps avant de trouver le bon accord quand même.
Bah après, là, le temps que je mets pour trouver ma gamme, c'est vraiment c'est juste une question d'inspiration, parce que vu que je suis pas dans une production régulière, quand je fais un nouvel instrument, que j'ai envie qu'il soit intéressant et puis qu'il me corresponde à ce moment-là de ma vie aussi, je cherche jusqu'à ce que je trouve vraiment ce que j'ai envie, quoi. Après quand j'ai plusieurs gammes déjà créées, je peux la refaire directement. Pour accorder les notes, c'est pas le plus long, on va dire, parce que c'est vraiment pour arriver avec mes notes déjà découpées, l'instrument à cet état-là, déjà, il y a une grosse partie qui est faite, à part pour ceux où je vais les finir en polissage, polymiroir, là, avec un côté vraiment brillant, où là, ça devient un peu des bijoux, quoi, presque. Là, il y a encore beaucoup de boulot derrière, mais surtout à l'accordage, parce que ça, c'est complexe, ça change. Ça, c'est complexe. Pour accorder, ça va dépendre si je me confronte à des galères, parce que c'est jamais très simple, en fait. Mais je peux régler ça si j'ai de la chance que tout se passe bien, en 2 heures, c'est fait, quoi.
Par exemple, on imagine que tu étais trop loin avec ta scie sauteuse et ta lame est devenue trop grande.
Ouais,
et donc, tu passes du do ré mi au do ré mi. Enfin, bref, c'est un peu. Le ré est trop haut, donc il faut que tu redescendes.
J'ai plusieurs solutions, en fait. Alors, la solution extrême, c'est-à-dire ma gamme, elle est vraiment fixée à cet endroit-là et je suis descendu vraiment trop bas. Alors, c'est que j'étais un peu con quand même. Enfin, je m'étais endormi sur ma scie sauteuse. C'est ce qui arrive quand même. Hein. Je peux ressouder carrément un peu le bas de la lame. Mais du coup, là, c'est casse-pied, parce que selon à quel niveau de finition je l'avais fait avant de couper les lames, ça peut m'emmerder. Surtout si j'avais commencé à le poncer pour arriver à un fini poli. Du coup, là, c'est vraiment cas extrême. Mais en général, j'en arrive pas là, quoi. Et du coup, si vraiment je suis juste descendu un petit peu en dessous, j'enlève un peu de matière sur le haut de la lame. Je ponce un peu, je disque un peu avec un disque à poncer pour réduire l'épaisseur de la lame. Et du coup, je remonte en aigu. Et sinon, si vraiment je suis un peu bas et puis que je me dis, bah tiens, finalement, on va dire ce do là, qui est plus bas, alors que je voulais commencer en ré ou en mi, il me plaît bien, elle résonne bien cette lame-là, et bah tac, je vais descendre tout le reste de la gamme aux notes équivalentes.
En fait, tu fais tellement ce que tu veux, quoi.
Je fais exactement ce que je veux, ouais. Sauf quand c'est une commande, par exemple, et du coup, là, je suis un peu coincé sur exactement ce que voulait la personne, et ça, du coup, ça peut être un peu plus complexe. Faut que je fasse plus attention, et...
Alors j'ai vu que là tu es arrivé avec plusieurs, tu pourrais peut-être même changer
pour changer
un peu de sonorité, voir un autre métadrome.
Je vais faire un petit test de celui-là. Alors celui-là est beaucoup plus puissant, c'est un 8 notes que j'ai fait en très aigu, donc là les notes elles pètent grave. Du coup celui-là il est intéressant pour les gens qui veulent jouer un peu fort en extérieur, même avec des sons, avec des percus, j'ai déjà joué en tapant un peu fort en montant. Ouais. Et du coup il est intéressant. Thank you.
Merci. C'était donc encore Bruno qui faisait une démonstration avec un de ses métadromes, un de ses métadromes.
Drum, hein, ouais. Méta, du coup, comme méta au-delà. Bon, si à l'origine, ça vient plutôt de méthane. Mais comme je l'écris, maintenant, il n'y a plus le H de méthane. Donc, c'est méta au-delà de la percussion. Drum en anglais, quoi. Du coup, au-delà de la percussion. Métadrum.
Mais c'est intéressant parce que, en général, les instruments percussifs, tu joues sur la rythmique, mais tu joues pas forcément sur les notes. Enfin, il y a sans doute les steel drums, peut-être que tu peux faire des mélodies, mais en général, percussion, c'est plutôt...
C'est ça. Pour moi, c'est qui suis pas mal dans la percussion. C'est une ouverture sur le monde harmonique, la mélodie qui est fabuleuse, quoi. C'est extraordinaire. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis à l'école, j'ai commencé à faire de la percussion sur les bureaux. Du coup, c'est amusant parce que je jouais vachement avec les doigts à faire pas des mélodies justement, mais des rythmiques sur mes tables. Puis quand j'ai découvert cet instrument-là, et quand je me suis mis à en fabriquer, surtout, je me suis dit tiens, j'étais prédestiné à faire quelque chose comme ça, quoi.
Alors, j'ai vu que t'étais arrivé aussi avec des baguettes, mais avant que tu nous fasses une autre démonstration avec des baguettes, bon, je vois que tu t'agites avec tes mains qui font un certain nombre d'allers-retours, frapper, pas caresser, mais je vois que tu poses la paume des fois c'est avec les pouces, avec les doigts. Comment tu utilises tes mains avec cet instrument?
Du coup, ce que je te propose peut-être, c'est d'en montrer un troisième et je vais expliquer en fur et à mesure ce qu'on peut faire. Alors celui-ci, c'est, je sais pas ce que c'est comme gamme, parce que c'est une gamme que j'ai découverte, on va dire par pérégrination dans mes instruments, et j'ai pas cherché, parce qu'il y a tellement de gammes qui existent que j'ai pas voulu me prendre la tête à chercher ce que c'était exactement. Du coup, ça c'est un 12 notes qu'on a la chance d'avoir énormément de notes pour jouer, c'est super, mais en même temps ça donne une résonance beaucoup plus présente de fer qui peut être utilisable ou étouffable. Certains fabricants, ils mettent, la plupart, ils mettent du plastique, du caoutchouc dessous pour étouffer ce genre de vibration. Moi, je le fais pas encore parce que je me suis rendu compte que dans mon jeu, je me sers beaucoup de cette vibration là. Donc après, je vais essayer quand même d'en faire avec, mais c'est pas encore fait.
Oui, parce que tu peux laisser le son se prolonger ou alors le couper d'un seul coup. C'est ça que tu veux dire?
Non, c'est pas tout à fait ça. Eh ben, alors, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais montrer en même temps. Donc là, par exemple, je vais taper au milieu. C'est pas sur une note. Voilà, là du coup c'est vraiment la résonance de l'ensemble des notes transmises par la ferraille. Sur un 12 notes, vu qu'il y a plus de notes, la carcasse, on va dire, est plus fragilisée. Du coup, elle laisse beaucoup plus passer cette résonance que sur un 8 notes. Et certaines personnes mettent à l'intérieur, ils mettent une espèce de caoutchouc ou du goudron pour étouffer ce genre de bruit, quoi. Moi, je le fais pas parce que cette résonance, elle me sert dans le jeu. Par exemple, si je joue avec les mains, là, j'envoie... Ouais, je vais faire un truc... voilà. Je peux utiliser ou non la résonance. Là, du coup, je vais me lancer, puis en même temps, je vous dirai ce que je fais. Du coup, là, je joue sans toucher l'instrument avec mes paumes, juste avec les deux pouces et les deux index. Et du coup, toute la résonance sort et fait un ensemble. Mais si je veux, je peux aussi couper en même temps. Du coup, là, je pose un peu une paume qui étouffe un peu. Après, si je joue un accord, par exemple, je vais jouer par exemple ces trois notes là. Là, j'ai carrément la main gauche qui est posée dessus et qui étouffe la vibration. Le même accord sans poser la main dessus, ça ferait ça. Du coup, quand on commence à vraiment développer le jeu, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir cette vibration-là. Après, je vais faire des expériences quand même pour voir si, même en mettant des amortis, peut-être qu'on a quand même un peu cette vibration-là. Ah oui, tiens, ça me fait penser que tout à l'heure dans l'impro que j'ai fait, il y a eu un passage où j'ai joué pas mal des notes, qu'on pourrait dire en des harmonies, des accords dissonants, que je vais vous refaire là, vite fait, en essayant de les jouer doucement, c'est pas le même instrument.
Ah, il est plus cristallin celui-ci.
Il est beaucoup plus cristallin, c'est le 8 notes là, et très aigu. Du coup, pour ça qu'il est plus puissant. Vu que je l'ai fait très aigu, les notes, elles pètent grave, quoi. Et du coup, voilà, c'est tout ça pour dire, pour en arriver, que souvent, je fais des gammes avec pas mal de notes à l'octave, c'est-à-dire 6 ou 7, comme une gamme de Do ou comme, comme certaines gammes, alors je sais pas exactement le mot savant, avec 6 notes, quoi. Et du coup, ça permet une expression musicale qui est très intéressante, moi, je trouve, qui permet de vraiment faire des variations, des subtilités dans la mélodie. La plupart du temps, les gens qui fabriquent ces instruments-là, ils font des gammes pentatoniques avec que 5 notes. Et bon, j'en ai eu fait hein, une fois ou deux, je crois. Et ça m'intéresse beaucoup moins. Moi, je me sens vite limité. Mais du coup, le truc, c'est que ça fait des gammes où tu peux pas faire de fausses notes, diront certains. Et moi, je trouve ça presque dommage parce que ces fausses notes, parfois, elles sont vraiment intéressantes. Ça, pour faire un lien un peu, on va dire, métaphorique avec la vie, ça correspond plus à la réalité que s'il n'y a pas de fausses notes. Et en plus, elles sont utilisables vraiment parfois de façon magnifique, quoi. Bon, après, faut pas en abuser, hein, c'est comme tout.
Quand on aime, on ne compte pas.
C'est ça. Mais c'est comme dans le chant, parfois, moi j'aime beaucoup. Du coup, ça ressemble plus vraiment à des dissonances comme ça, mais faire des sons un peu monocordes, je sais pas exactement, mais en tout cas, faire tenir une note et puis avoir d'autres sons en même temps à côté. Et quand elle s'approche, la fréquence commence à s'approcher l'une de l'autre, les vibrations vont s'entrechoquer et ça commence à faire des trucs vraiment extraordinaires. Moi, je trouve le plus intéressant, c'est quand je suis dans mon bain, je fais plusieurs sons en même temps, ça. J'ai les oreilles sous l'eau, je vous conseille vivement d'essayer. Et après tu chantes n'importe quel son, pas des chansons, hein, je parle vraiment faire des vibrations. C'est des expériences qui sont vraiment fabuleuses.
Une autre petite démonstration qu'on pourrait te demander, c'est avec les baguettes. Qu'est-ce que ça fait comme son avec les baguettes?
Oui, bien sûr.
Des baguettes enrobées de caoutchouc, je vois ça.
C'est ça. En fait, bon, on fait tous un peu, on a tous eu un peu la même idée. Bon, c'est un morceau de bois avec simplement une balle rebondissante. Pour être plus cohérent, je dis que c'est peut-être plus intéressant de montrer avec un instrument que j'ai déjà essayé à la main. Puis après, je vous ferai un petit impro sur le grave, là, qui est une expérience un peu, pas hyper concluante, mais qui est intéressante justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, des vibrations qui se chevauchent. Thank you.
Merci encore Bruno, c'est super, moi j'adore, hein, vraiment.
Ouais, la baguette, ça permet de faire des mélodies vachement plus posées. Vu que t'as deux trucs pour taper, t'as pas tes 12 doigts, donc...
C'est effectivement un superbe instrument. Alors j'imagine, on va peut-être passer à la partie concrète, je suppose que tu as fait ces Metadrone dans l'optique peut-être d'en vendre, non? Ou bien...
Oui, c'est ça. Au bout de quelques années, en fait, j'ai réussi enfin à commencer à en fabriquer un pour moi, que j'ai fait vraiment à l'arrache, comme tout cordonnier qui se respecte. Et un jour, il y a une nana qui m'a croisé et qui m'a demandé de lui en faire un, qui m'a fait une commande. Et du coup, là, je me suis lancé, j'en ai fait 4 d'affilée. Bah, j'ai commencé à produire 4 bouteilles. Le premier, du coup, elle l'a pas acheté. J'en ai fait un deuxième, pareil, pas acheté. Et puis après, je me suis dit, mais ça me plaît bien, cette chose-là, cet instrument-là, c'est très intéressant. Et je me suis mis en fabriquer pour le plaisir, à aller dans la recherche. Et du coup, oui, maintenant, là, je suis en train de rajouter un statut sur ma boîte d'auto-entreprise pour pouvoir les vendre. Et en effet, je commence à les vendre.
Combien de temps tu mets pour mettre au point un métadrome, tout compris?
Alors, c'est très variable. Quand tout se passe bien, on va dire que... dire entre 10 et 12 heures quand ça se passe bien, mais ça peut, après c'est 10 ou 12 heures sur quelques jours parce que ça, c'est du travail qui est vraiment fatigant et du coup je peux pas faire beaucoup d'heures de disqueuse par jour ou de soudure, je m'étouffe, puis j'ai pas encore le matos vraiment adéquat, du coup je mets on va dire entre 10 et il m'est arrivé de mettre plus de 30 heures pour en faire un quoi, du coup entre 10 et 25 heures selon la finition.
Alors, combien tu les vends?
Du coup, je les vends entre 250 et 350 euros. Et en fait, il y a plusieurs définitions. Hein. Je les appelle bruts ou polis. Quand ils sont polis miroirs, c'est ça brille comme un miroir. Et avec des couleurs que je leur donne grâce à la chauffe au four. Du coup, qui vont être jaune sale. Bah bon, je le fais pas trop celui-là. Jaune d'or, on va dire. Cuivre, rouge, violet, bleu et vert. Avec plein de déclinaisons dans ces couleurs-là, que j'ai du mal à voir avec précision, hein, donc ça c'est à voir.
Aléatoire.
C'est très aléatoire, mais c'est vraiment joli, quoi. Et du coup, quand ils sont polis miroirs avec des couleurs, ça donne vraiment des instruments extra. Ils sont vraiment très très beaux. Et ceux-là, ils sont chers. 12 notes, là pour l'instant, j'ai fait à 350, mais c'est en cours d'évolution, parce que vu que je suis en train de mettre mon statut en place, tout ça, bon, c'est pas encore bien fini. Et le prix de base, c'est 250 quand ils sont bruts en 8 notes, quoi.
Ce qui n'est pas encore si excessif que ça quand on parle d'un instrument de musique, Bruno.
Non,
hein.
non, c'est pas. Bah, ça commence à être quand même cher, mais c'est pas une guimbarde, quoi, c'est sûr. Et puis, par rapport au coût du marché, dans les 250 euros, j'en ai pas vu à ce prix-là pour l'instant. Ils sont, je crois que les premiers commencent à 270 et très vite, ils sont à 300, 350. Bah, pour ceux que j'ai vus, quoi. Après, à chercher, hein, trouve. On peut dire qu'en tout cas sur le net on est beaucoup à en fabriquer et c'est intéressant de se pencher dessus parce que ils ont tous des types de sons différents et voilà, faut chercher à partir de Hang sur le net, HANG, du coup c'est pas le même instrument, hein. C'est des instruments qui sont beaucoup plus chers, donc le mec en Suisse a arrêté d'en fabriquer, mais il y a plein d'autres qui en font de par le monde qui sont mis en fabriquer, mais à partir de ça en général on trouve des liens de ce type d'instrument. Et il faut savoir que ça s'appelle toujours quelque chose drum en général, que ce soit happy, tank, comme bouteille de gaz, tank drum, happy drum. Il y a Tambour Zen aussi que je connais, qui fait vraiment des magnifiques travails. Lui il fait des plus gros, je crois qu'il a 11 notes, et il fait carrément dessus, il fait de la céramique dessus, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, il fait un...
Tu vas pas faire de la publicité pour les autres. Mettons que dans la région, quelqu'un qui nous écouterait, oui, puisque nous sommes une radio locale, voudrait en acheter un au Bruno. Bah, comment ferait-il?
Ah oui, alors je suis en train de faire un site internet là, mais bon, vu que moi au niveau de l'informatique, je suis pas très doué, puis ça, en fait, ça me fatigue. Du coup, je suis en train de me faire aider, mais je pense que d'ici un mois, le site sera en place. Après, je vais laisser mon contact à Landarta, parce que j'habite juste à côté, puis c'est Valentina de Landarta, elle me booste vraiment pour... Bah d'ailleurs, je fais un concert le 26 mars à Landarta, le 26 mars à 20h30, du coup samedi soir, je fais mon premier concert à Landarta. Et du coup, on peut demander directement à Valentina, je laisserai mon contact, et puis j'habite juste à côté.
Alors quand ton site sera prêt, on rajoutera l'adresse sur la page de l'émission qui débouchera directement sur ton site.
C'est ça, puis je laisserai mon numéro de téléphone aussi, parce que ça, bon, vu qu'on est dans le Diwa...
Tu peux même le mettre ici.
Je peux le donner en direct, pour ceux qui vont pas sur internet comme moi. C'est le 06 33 21 65 deux fois. En sachant que pour les gens qui habitent sur Die aux alentours, on arrive toujours à s'arranger pour faire des paiements en différé, parce que comme tout le monde, je sais que c'est pas facile de pouvoir sortir cette somme-là, même si de préférence, je préfère livrer l'instrument. Et je prends des commandes pour faire des instruments spécifiques selon demande, pour les musiciens par exemple.
Une gamme en ré plutôt qu'en do, etc.
Voilà, bah, ou une gamme pentatonique mineure, ou une gamme akebono, pour ceux qui connaissent la musique, après ils peuvent avoir des envies ou des désirs particuliers, ou même un désir de recherche particulier, on peut discuter ensemble et voir ce qu'on peut faire.
Et tu as même un mail, si je ne m'abuse.
J'ai bien sûr un mail, et puis je suis retourné dessus pour effacer un peu tous les trucs, et je peux lire mes mails maintenant. Donc c'est entreprisecocon@yahoo.com. Je fais aussi, à côté de ça, je fais de la charpente, et mon rêve c'était de fabriquer, je dis c'était parce que pour l'instant ça marche pas trop, c'est de fabriquer des cabanes voilà.
Dans les arbres,
ouais, ça c'est l'idéal.
Très bien, ben, tu reviendras pour les cabanes une autre fois.
Je reviendrai pour les cabanes une autre fois, voilà.
Je te remercie beaucoup, Bruno, d'être venu, parce que c'est fascinant comme instrument. Je comprends que ça t'ait interpellé, surtout si tu m'expliques que dans ta jeunesse, tu tapotais sur ton pupitre d'écolier.
Bah, c'est ça, ouais, c'était un peu comme si je m'étais préparé à cet instrument-là en jouant de la percussion sur mes bureaux toute mon enfance.
Je mettrai toutes les coordonnées sur la page de l'émission. Merci Bruno, à très bientôt, et n'hésitez pas à passer commande. Moi je trouve que pour un instrument de cette qualité, avec cette sonorité et avec les possibilités que ça donne, un percussion plus mélodie, 250 à 350, 400 euros, c'est pas cher en fait.
Non, c'est en plus par rapport au prix du marché, c'est accessible.
Merci Bruno.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci.
Interview. Hey, the bird. L'interview du jour.